Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous prie de m'excuser, alors d'une part pour le changement d'horaire, même s'il n'est pas de mon fait, ce sont des contraintes logistiques. Et d'ailleurs, nous retrouverons la semaine prochaine l'horaire habituel de 14h30. Mais aussi parce que je vais commencer cette séance sur une note un peu mélancolique, parce que je voudrais évoquer deux personnalités intellectuelles exceptionnelles qui nous ont quittés depuis la semaine dernière. Et deux personnalités qui ont profondément marqué mon travail de façon différente, mais importante. La première disparition est celle de Jacques Revel, qui était un très grand historien d'une exigence intellectuelle extrême. J'ai eu la chance de bénéficier de son enseignement, mais aussi de son amitié. Et c'est donc, si vous le permettez, avec beaucoup d'émotion que je voudrais saluer sa mémoire aujourd'hui. Secrétaire des Annales dans la deuxième moitié des années 1970, plus tard directeur de l'école des hautes études, président, pardon, de l'école des hautes études en sciences sociales, auteur de plusieurs articles marquants et d'ouvrages collectifs. Jacques Revel, on peut le dire, a été pendant un demi-siècle une vigie historiographique, accompagnant toutes les évolutions de la discipline, attentif à ses liens avec les autres sciences sociales et avec les grands courants de la recherche internationale, de la microstoria italienne au linguistic turn américain, toujours soucieux d'interroger de façon critique la réflexivité de l'historien et de l'historienne par rapport à leurs objets, leurs méthodes et leurs outils narratifs. Sa grande leçon était qu'il ne faut jamais se presser de simplifier, de généraliser, de courir au résultat, mais qu'il faut au contraire toujours expérimenter, explorer, être sensible à la complexité des processus historiques et à l'enchevêtrement des temporalités. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, disait-il avec humour. Et derrière cette boutade, il y avait un sens profond de la fragilité du savoir historien et des leçons incertaines qu'on peut en tirer. Jacques Revel croyait intensément à la discussion scientifique, à l'échange intellectuel, mais il refusait tout emphase, tout pathos et surtout toute mise en scène de soi. D'où une œuvre à la fois rigoureuse, laconique, collective et économe de ses effets. Au fond, il était sans doute l'historien le moins charlatan que j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'admirer. Tout cela faisait de Jacques Revel un guide incontournable pour celles et ceux qui réfléchissent à la façon d'écrire l'histoire, à la manière d'articuler les questionnements, les sources et les récits, sans modèle préalable, sans simplification excessive, sans conclusion tonitruante, avec simplement le souci d'ajuster l'analyse à la complexité du réel plutôt qu'aux attentes des lecteurs. Ce qui lui a permis d'exercer un magistère informel mais puissant, celle du lecteur redoutable et toujours perspicace qu'il était. Alors on oublie parfois que Jacques Revel, et on l'oublie notamment dans certains hommages, que Jacques Revel n'a pas seulement été un théoricien inquiet des possibilités et des limites du savoir historiographique, il a aussi été un historien du XVIIIe siècle, auquel il a consacré plusieurs études importantes, notamment, parmi d'autres, Logique de la foule, alors ça c'était, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure, mais c'est pas grave, Logique de la foule, écrit avec Arlette Farge, publié en 1988, qui analysait avec brio les émeutes parisiennes de mai 1750 contre les enlèvements d'enfants par la police. Le livre montrait à la fois la fécondité d'une analyse de l'événement au plus près des archives policières et d'une étude des paroles populaires ouvrant sur des rumeurs inattendues, comme celle qui accusait le roi, malade de la lèpre, de prendre des bains de sang pour se soigner. Voilà le type de rumeurs qui circulait à Paris en 1750. Et je voudrais aujourd'hui évoquer un autre texte, moins connu, un article publié en 1992 sous le titre « L'envers des Lumières, les intellectuels et la culture populaire en France au XVIIIe siècle », publié en 2006 dans un recueil d'articles de Jacques Revel, « Un parcours critique », sous un titre un peu différent. Alors c'est un article, comme il les écrivait, à la fois bref et dense, qui s'inscrit dans la continuité de la critique que Jacques Revel, avec Michel de Certeau, a mené de la notion de culture populaire comme catégorie historiographique. Dans d'autres textes, il en avait déconstruit les fausses évidences et les facilités méthodologiques. Ici, il en esquisse une généalogie à l'époque moderne et il met en évidence plusieurs évolutions. Dans un premier temps, de la deuxième moitié du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, il montre que des médecins, théologiens, administrateurs ont cherché à dresser l'inventaire de croyances irrationnelles qu'il s'agissait de dénoncer comme des écarts à la norme, à travers une expertise savante. Le populaire renvoyait moins alors à une caractérisation sociale qu'à cet écart même à la norme. Il désignait donc tout ce qui était local, incongru, surprenant, inexplicable. Le mot-clé de cette mise en forme, de ce premier moment rationaliste, si vous voulez, encore largement inspiré par la théologie, c'était le mot « superstition », comme dans le fameux traité des superstitions de Jean-Baptiste Thiers. Puis, vers le milieu du XVIIIe siècle, la désignation de « populaire » se généralise. Je veux dire en cela qu'elle devient à la fois plus courante et plus générale. Elle perd en expertise, elle n'est plus le fait de professions spécialisées et elle vise de façon globale un ensemble d'attitudes qui sont désormais disqualifiées par la référence à leur position sociale. La catégorie de populaire permet désormais aux élites de s'auto-définir par la maîtrise de la civilité et de la raison. Mais, montrait Jacques Revel, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, un second processus, presque en sens inverse, se déploie, qui lui-même se dédouble. D'une part, les attitudes populaires deviennent à nouveau l'objet de l'étude de spécialistes, dans le cadre, cette fois, d'un discours pré-ethnographique, qui cherche à les étudier et à le comprendre dans un contexte intellectuel différent, qui est celui de la pensée du progrès. Ces attitudes populaires correspondent à un passé qu'il s'agit d'étudier avant qu'il ne disparaisse à travers une sorte d'exotisme de l'intérieur. Ces attitudes ne sont plus perçues comme des superstitions, mais comme des traditions. Et parallèlement, surtout avec la Révolution, le peuple, le populaire, se charge d'une nouvelle légitimité. Il désigne aussi un acteur politique, celui de la souveraineté nationale. Et donc, il ne désigne plus seulement, pas seulement en tout cas le passé, mais aussi l'avenir. Et c'est cette tension qui est profondément productive. Le populaire est à la fois le principe légitimant du projet politique national, le peuple, et le nom de la résistance au progrès. Il appelle donc à la fois l'efficacité rationaliste des administrateurs éclairés et l'effort pédagogique des philosophes. Alors, vous comprenez bien évidemment pourquoi aujourd'hui, dans ce cours, j'évoque un peu longuement, mais en fait il faudrait l'évoquer, déplier encore plus longuement hein, ces analyses, mais pourquoi j'évoque aujourd'hui cet article important et subtil. C'est que la question du rapport ambivalent des intellectuels et des savants aux croyances populaires, qui hésitent entre justement expertise savante, disqualification sociale de croyances jugées irrationnelles et valorisation politique d'un acteur nouveau, eh bien, ce rapport ambivalent, donc, aux croyances et aux pratiques populaires, est un des thèmes que nous ne cessons de rencontrer dans notre enquête sur les charlatans, ressaisie à travers la critique de la crédulité et de la légitimité des publics. Jacques Revel est mort vendredi dernier, le 13 mars 2026, Le lendemain, nous apprenions la mort de Jürgen Habermas à 96 ans, un âge respectable. Je ne l'ai jamais rencontré, à la différence de Jacques Revel, je ne l'ai jamais rencontré personnellement, je parle d'Habermas, mais son œuvre, beaucoup d'entre vous le savent, est une sorte de référence incontournable de mon travail depuis ma thèse. En particulier, bien sûr, son grand livre sur l'espace public, qui a profondément marqué les études 18e-mistes, et que je ne cesse de questionner sans pouvoir véritablement m'en détacher complètement, mais aussi ses travaux sur les Lumières comme programme inachevé de la modernité, ou encore ses réflexions critiques sur le rôle de la philosophie et des sciences sociales dans la cité. Alors, je vais beaucoup moins m'attarder ici, d'une part parce que vous lirez, et vous avez lu partout, de longues nécrologies d'Habermas, qui était un géant de la philosophie du XXe siècle et un intellectuel européen majeur. D'autre part, parce que j'ai déjà commenté ici, et j'aurai l'occasion de le faire à nouveau, ses thèses sur l'espace public, les critiques qu'on peut lui adresser, la fécondité indiscutable d'une intuition fondamentale, celle qui associe les Lumières, la modernité et l'impératif de soumettre la discussion intellectuelle et politique à des contraintes de rationalité et de publicité. Jürgen Habermas n'a jamais cédé ni sur son engagement démocratique, ni sur son attachement à l'Europe. Il était la conscience morale d'une Europe éclairée, post-nationaliste, farouchement démocratique. Il nous reste à espérer que sa disparition ne devienne pas le sinistre symbole d'un changement d'époque. Du peuple au public, du regard que portent les intellectuels sur la culture populaire jusqu'à leur ambition d'éclairer la multitude, ce qui se joue au fond, c'est peut-être le passage du charlatan de la Renaissance, histrion et vendeur d'Orvietan, au charlatan des Lumières, demi-savant et démagogue habile. C'est tout le passage aussi de la condamnation savante à la dénonciation politique. Lors des deux premières séances du cours, début janvier, j'avais mis en parallèle deux discours des philosophes des Lumières sur le charlatanisme. J'avais commencé, vous vous en souvenez, je l'espère en tout cas, par la critique de Condorcet. Celle-ci mettait en scène un face-à-face irréductible entre les philosophes d'une part, appuyés sur les principes et les institutions de la science, et d'autre part, les imposteurs et démagogues. Les premiers visant à éclairer le public, le second cherchant à le tromper. Entre eux, point de compromis possible, mais le combat de la raison contre la superstition, de la vérité contre le mensonge. Un second type de critique, plus inquiète, plus ironique, que nous avions rencontré notamment chez Voltaire, suspectait le charlatanisme d'être inhérent à la pratique des sciences et renforcé par le commerce de librairie, chaque savant cherchant à faire valoir, en quelque sorte, ses idées comme une marchandise. Puis, vous l'avez remarqué, j'ai été aspiré par l'histoire sociale du charlatanisme médical, des médecins empiriques et de leurs remèdes, de la proximité entre les théâtres ambulants et la médecine populaire, pendant toute une série de séances, et j'ai un peu délaissé cette question du charlatanisme au sein de l'espace savant. Mais rassurez-vous, je ne l'ai pas perdu de vue, puisque c'est au fond la question essentielle dont j'étais parti, celle qui motive cette enquête sur les charlatans. D'ailleurs, nous l'avons croisé à nouveau la semaine dernière. Dès lors que la science devient publique et spectaculaire, dès lors qu'elle suscite l'engouement et la curiosité, ne risque-t-elle pas d'être aspirée par le charlatanisme sous toutes ses formes, se demandait Henri Descran dans sa croisade contre les usages dévoyés de la science et contre les prestiges de la magie. Au-delà, c'est toute la question, enfin, c'est tout le monde du savoir plutôt, qui entre progressivement dans une ère du soupçon. Le désir du succès, voire l'appât du gain, ne risque-t-il pas d'entraîner les savants au-delà des limites légitimes du raisonnement scientifique ? Et on peut même aller plus loin, lorsqu'un savant cherche à susciter l'intérêt de son auditoire par quelques effets rhétoriques ou visuels, à quel moment cesse-t-il d'être un pédagogue pour devenir un charlatan ? Peut-on si facilement tracer une frontière étanche entre les usages légitimes et illégitimes de la communication ? Ce que l'on peut formuler encore autrement, le charlatan est-il l'adversaire du philosophe, son envers, ou plutôt sa mauvaise conscience ? Alors il est temps aujourd'hui, et encore la semaine prochaine, d'aborder frontalement cette question en suivant toute une tradition, aujourd'hui je vais le faire en suivant une tradition intellectuelle de critique, ou plutôt, je dirais, d'autocritique des sciences, un ensemble de textes, souvent oubliés, qui ont inlassablement insisté sur les abus et les ridicules des savants, stigmatisant leur irrésistible propension au charlatanisme. Dans l'Europe du XVIIIe siècle, un livre en particulier a mis cette question au centre des discussions. Il s'agit d'un livre d'un professeur d'histoire et de droit de l'université de Leipzig, Johann Burckhard Mencken, ou Mencke, sans le N, les deux graphies sont avérées, qui prononce en février 1713 à Leipzig, puis à nouveau en février 1715, deux conférences, à la fois officielles et satiriques, je reviendrai dans un instant sur cette apparente contradiction, conférences qui sont ensuite publiées en latin dès 1715 sous le titre « De charlataneria eruditorum », pas vraiment besoin de traduire, hein, « De la charlatanerie des érudits ou des savants ». Le livre fait l'objet de nombreuses rééditions, au moins 6 au cours du siècle, et il est traduit dans plusieurs langues européennes, en allemand dès 1716, puis en français en 1721 et en espagnol en 1787. Il aura même des suites, par exemple en 1791, presque un siècle plus tard, Johann Gabriel Büchel publie « De la charlatanerie des savants depuis Mencke », qui est à la fois un état des lieux et une mise à jour, ce qui montre que le livre était toujours une référence, au moins dans le monde germanique. Donc il a traversé comme ça tout le XVIIIe siècle. Et je pourrais citer toute une série d'autres livres qui s'inscrivent et qui répondent et qui réagissent à ce texte. Alors, Johann Burckhard Mencken, il est vrai, n'était pas un inconnu ou un auteur satirique de second ordre. Il était un grand savant et un érudit, professeur à Leipzig, je l'ai dit. Son père, déjà, avait fait une très belle carrière dans la même université où il était réputé pour ses qualités d'orateur et attiré une foule nombreuse d'étudiants. Il avait fondé en 1682 les Acta Eruditorum, qui était un des principaux journaux savants européens, que son fils, donc, Johann Burckhard, a ensuite dirigé pendant tout le début du XVIIIe siècle. Alors, on qualifierait peut-être aujourd'hui de Nepo Baby, je ne sais pas, mais à l'époque, les dynasties universitaires étaient monnaie courante. Il vous suffit de vous promener dans la cour Budet du collège et vous verrez les noms gravés sur les plaques, vous avez peut-être déjà vu, les noms gravés des professeurs du Collège Royal à l'époque moderne, et vous constaterez que très souvent, les fils succédaient au père. Bref, Mencken était une figure importante, respectée, de ce qu'on appelait alors la République des lettres, ce réseau européen de savants qui échangeaient des lettres, des ouvrages, des recommandations, des recensions dans les journaux, qui voyageaient aussi, entretenant un idéal cosmopolite et lettré, comme si leur véritable patrie était la connaissance. Mencken lui-même a voyagé au début de sa carrière, notamment en Hollande, où il a rencontré Pierre Bayle, qui a exercé sur lui une influence certaine, par son esprit critique et sa liberté intellectuelle. Il a voyagé aussi en Angleterre, où il a rendu visite aux figures majeures de la Royal Academy. C'est donc ce digne professeur, alors âgé de 40 ans, qui publie en 1715 ce petit ouvrage en latin chez un imprimeur qui, se trouve, était son beau-père. Vous voyez, décidément, c'est une histoire de famille. Et le livre était court, puisqu'il s'agissait donc de deux conférences et une préface. Or, les éditions suivantes ont été augmentées, dès l'édition allemande de 1716, augmentées de nombreuses notes rédigées par des collaborateurs ou des étudiants de Mencken, au point d'en doubler le volume. Par exemple, si on ouvre l'édition française, ou plus exactement l'édition en français, publiée à La Haye en 1721, chez le libraire Jean Van Durant, avec de nombreuses notes, vous voyez, avec des remarques critiques de différents auteurs, qui commentent, ajoutent des références et des exemples, et parfois même critiquent le texte principal. Il arrive ainsi, dans cette version, que sur la même une seule page, vous ayez une ligne de texte et ensuite un ensemble de références bibliographiques et de notes qui parfois se contredisent. Ce qui renforce encore le caractère érudit et encyclopédique de ce volume, au-delà de leur dimension satirique, de sa dimension satirique. Alors d'ailleurs, un mot sur, je vous ai mis là le frontispice aussi, qui est le même, si vous l'avez peut-être noté, que celui de la version originale. Et on y voit évidemment des charlatans, ici, sur dans le théâtre de la foire. Vous voyez le public, vous voyez les charlatans, vous voyez sur la droite, enfin la gauche, des acrobates sur scène, et puis l'assistante qui montre une boîte avec des médecines, des médicaments, des remèdes. Et la gravure est surmontée d'une devise que peut-être vous déchiffrez difficilement de loin, mais qui dit « Mundus vult decipi », le monde veut être trompé, ce qui correspond, glose Mencken dans sa préface, à la devise des charlatans, le monde veut être trompé. Et la préface de Mencken, justement, revient longuement sur le terme même de charlatan, en se justifiant de l'emploi qu'il en fait. Mencken dit avoir emprunté le terme au français, même s'il sait que le mot à l'origine vient de l'italien. Il cite Charles Patin, lui-même fils du célèbre médecin Guy Patin, décidément. Charles Patin qui était libre penseur et qui aurait dit que la charlatanerie était la cinquième partie de la médecine. Et il disait, et c'est même la plus importante de toutes. Mais, explique Mencken, la charlatanerie, ça ne désigne pas, en tout cas dans l'esprit, dans l'emploi qu'il en fait, ça ne désigne pas l'usage illégal, frauduleux de la médecine ou de la science, une pratique illicite menée par des gens sans qualité, des histrions, des vagabonds, des fripons, mais plutôt, et c'est très différent, un ensemble de petites fraudes, de pratiques douteuses, pour faire parler de soi, d'entourloupes, plus ou moins accepté, mais largement répandu, dit-il, au sein du monde universitaire. Alors, bien sûr, la médecine est particulièrement concernée. La charlatanerie est tellement commune, dit Mencken, qu'il est difficile de distinguer le charlatan du vrai médecin. Mais, et c'est là le point important, aucune discipline n'est à l'abri. Et c'est ce qu'on s'emploie à démontrer longuement les deux conférences. La première est sans doute pour nous la plus intéressante, puisqu'elle dresse la liste des principaux traits qui caractérisent le charlatanisme littéraire. On y trouve des formes ouvertes de tromperie, comme celle qui consiste à s'attribuer les idées ou le texte des autres, ce qu'on appelle le plagiat, mais aussi, et c'est peut-être plus intéressant, des pratiques qui se situent à la frontière du licite et de l'illicite, qui visent à tromper ou à persuader par des moyens douteux, ce que d'autres auteurs à la même époque proposent de nommer aussi le machiavélisme littéraire. C'est le titre du livre que Michael Lilienthal, un autre savant allemand, avait publié juste 2 ans auparavant. Machiavélisme littéraire, charlatanerie des savants. Ce sont des synonymes pour désigner un désir immodéré de réputation qui passe avant le souci de la vérité. Mencken s'en inspire pour de Lilienthal pour détailler les différentes stratégies utilisées par les savants. Par exemple, le fait de prononcer son propre éloge, de mettre en valeur ses ouvrages, de flatter les puissants pour obtenir des positions, ou encore de publier inlassablement de façon à être toujours au cœur de l'attention publique. Voilà des formes de machiavélisme littéraire ou de charlatanerie savante. Et ici, je ne résiste pas à citer Mencken. Excusez-moi. Voilà. Disons je cite Mencken, « disons un mot de ces auteurs qui mettent toute leur gloire à ne point laisser passer d'années, pas même de mois, sans donner au public quelque chose de nouveau. Esprit fécond, génies intarissables, la presse semble ne rouler que pour eux, mais quel crève-cœur, quel bouillon de bile ne sentent-ils pas lorsque ces productions chéries ne se trouvent point placées dans les journaux littéraires ou qu'elles n'y tiennent pas un rang assez honorable ?» Alors, portrait est amusant, il est tout juste, on croirait qu'il a été écrit hier matin, mais en quoi ce mélange, je dirais, d'incontinence éditoriale et de susceptibilité auctoriale, en quoi relève-t-il de la charlatanerie ? L'auteur qui publie sans cesse, qui veut que ses ouvrages soient largement salués, on pourrait dire qu'il manque de modestie, de pudeur, de discrétion, tout ce que l'on voudra, mais il ne trompe personne. Pourquoi l'appeler charlatan ? Eh bien, c'est que la recherche de la notoriété personnelle, cette façon de vouloir monopoliser l'attention publique, rappelle précisément, dit Mencken, les usages des charlatans, et notamment leur goût immodéré pour l'autopromotion. Un véritable savant ne devrait jamais avoir besoin de fanfaronner. Celui qui le fait prend le risque de passer pour un charlatan. Voilà ce qu'écrit encore Mencken. Rappelons encore une fois ces auteurs infortunés qui sont obligés de se louer eux-mêmes et qui le font d'une manière aussi pompeuse et en des termes aussi ampoulés que peuvent l'être ceux des charlatans, lorsque pour vendre leur panacée, ils font entendre au peuple que c'est un remède à tous les maux capable de les faire vivre des siècles entiers. Il évoque de même un travers répandu aussi bien chez les charlatans que chez les universitaires, qui tombent, dit-il, sous le coup du procès en charlatanerie, c'est l'utilisation de titres académiques pompeux, semblables aux déclarations hyperboliques des charlatans. Voici le texte, c'est un peu long, on va lire. « Ce que les charlatans ont accoutumé de faire sur leur théâtre et dans les places publiques, c'est cela même qu'on voit pratiquer dans la République des lettres par la plupart des savants, pas par quelques-uns, par la plupart des savants. Ceux-là, les charlatans, étalent pompeusement leurs privilèges, leurs lettres patentes, les certificats des cures miraculeuses qu'ils ont faites. Ils racontent avec emphase les effets surprenants et toujours infaillibles des remèdes qu'ils offrent au public. Et ceux-ci, toujours affamés de gloire et de réputation, brigue, invente, s'arroge de nouveaux titres d'honneur. En Espagne, vous n'entendez résonner à vos oreilles que les noms fastueux d'archi-cosmographe, d'archi-historiographe, d'archi-mathématicien. Et ce qu'il y a de plus singulier, c'est que ces bonnes gens s'imaginent que le roi, en leur accordant ces titres, leur a en même temps donné un droit de souveraineté dans toute l'étendue des sciences qu'ils professent et sont en effet regardés d'eux-mêmes par le vulgaire ignorant. L'Italie fourmille d'académies bien moins célèbres par leurs ouvrages que par les noms mystérieux, bizarres et ridicules qu'elles se font gloire de porter. Alors, on voit bien pourquoi cet usage qui peut paraître relever simplement d'une vanité un peu ridicule, hein, le fait de se donner des titres prestigieux, apparaît ici comme une forme de charlatanerie comparable aux fanfaronnades des empiriques. Eh bien, c'est parce qu'il s'agit d'en imposer au public, et en particulier aux vulgaires ignorants, non pas par la valeur des arguments ou la puissance de la pensée, mais par des effets d'autorité, par le prestige de l'apparat, ou encore parce que Pascal appelait des grandeurs d'établissement. Bon, vous remarquerez au passage que le dédain des Allemands à l'égard de l'Europe du Sud est assez ancien, mais l'essentiel est ailleurs. D'abord, dans la crainte que ces titres universitaires deviennent des titres de souveraineté. Il faut prendre la remarque presque au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'ils supposent une autorité sur un domaine du savoir, une autorité qui n'aurait plus à se prouver par la raison, mais qui s'imposerait comme un fait de pouvoir. Autrement dit, à travers une confusion entre l'autorité savante et l'autorité politique. Ensuite, dans le danger que ces titres pompeux et mystérieux deviennent des arguments publicitaires. Vous avez noté il y a un instant l'inquiétude à l'égard des auteurs qui publient trop, qui ne cessent de faire rouler la presse. Mais après tout, pourquoi se plaindre que des savants travaillent trop et produisent trop de savoir. C'est que la menace qui pointe ici, c'est celle d'une soumission de la science à des logiques commerciales, éditoriales, celle du marché du livre, celle des demandes des imprimeurs et des libraires. C'est un point sur lequel Marianne Fussell a insisté très justement dans deux articles consacré à Mencken, il montre que celui-ci s'inquiétait de la célébrité que pouvaient acquérir certains savants sur le marché littéraire, mais aussi de la façon dont les libraires, par leurs propres initiatives commerciales, pouvaient fausser la diffusion de la science. Et il n'était pas le seul, c'est un thème qui revient à plusieurs reprises dans les années suivantes. Par exemple, en 1732, un pamphlet anonyme, publié toujours à Leipzig, sous le nom de la charlatanerie des libraires, s'en prend un libraire-imprimeur accusé de publier de nombreuses encyclopédies pour répondre à la demande du public sans trop se préoccuper de leur qualité scientifique. Et peut-être que vous vous souvenez que Voltaire reprenait très précisément ce type de critique sur les logiques propres du marché éditorial et notamment des libraires-imprimeurs qui faisaient fabriquer des encyclopédies et des dictionnaires par des auteurs mineurs. Il les reprenait dans ses questions sur l'encyclopédie, article charlatanisme. La critique de la charlatanerie sert donc à désigner un double danger qui menace l'autonomie de la science, les dynamiques internes de pouvoir, lorsque chaque savant se taille une petite principauté et se pare de titres ronflants pour se mettre à l'abri de toute critique, et les logiques commerciales externes qui font primer le succès éditorial et la célébrité sur le jugement des pairs. Alors, vous voyez peut-être qu'au fond, le traité de Mencken réunit deux sortes de critiques. D'une part, celles qui relèvent de véritables défauts intellectuels, rédhibitoires, qui affectent la crédibilité même de la science et du savoir produit, le manque d'honnêteté, l'absence de rigueur, l'attention excessive portée à des détails insignifiants, le jargon incompréhensible. D'autre part, des défauts qui relèvent plutôt, je dirais, du ridicule, par exemple, la vantardise, la susceptibilité ou encore l'impolitesse de certains savants. Il y a même des défauts sur lesquels il s'attarde assez longuement et qui, à première vue, peuvent paraître un peu anecdotiques. Par exemple, la manière dont les savants s'habillent. Il s'en prend ainsi, je le cite, à une autre espèce de charlatan. Ce sont ceux qui, pour s'attirer les regards et l'admiration du peuple, affectent de porter des habits remarquables, ou par leur magnificence, ou par leur ancienneté. Alors, curieusement, l'exemple qu'il prend ici, c'est Aristote, qui se faisait poudrer et parfumer, et avait les doigts chargés de diamants et de pierres précieuses. Alors, franchement, j'avoue que je l'ignorais. Mencken semble assez sûr de ses sources, donc appel aux spécialistes d'Aristote, et il ajoute, à votre avis, messieurs, cela ne sent-il pas un peu son charlatan ? Alors, il donne aussi des exemples plus récents, de philosophes moins connus, donc ça vous ferait moins rire, mais le cas inverse est tout aussi, c'est-à-dire ceux des savants mal soignés et mal habillés, et n'est pas plus honorable, voilà un autre genre de savants, les docteurs qui, je cite toujours Mencken, au lieu d'un habit honnête et décent, portent un manteau crasseux et déchiré, un vieux pourpoint de cyclope, des chausses pendantes, des bas mal tirés, et tout cela afin de passer pour des hommes méditatifs et toujours concentrés dans l'étude et la contemplation. Bon, du coup, j'ai fait un petit effort aujourd'hui, parce que je me suis dit, après ça, c'est pas le jour pour venir en survêtement. Je n'aurais quand même pas passé pour un homme méditatif. Bref, on voit bien que, dans les deux cas, que ces bizarreries vestimentaires relèvent pour Mencken de la charlatanerie parce qu'elles sont excessives, parce qu'elles manquent de modération, mais surtout, et c'est le plus important, parce qu'elles visent à attirer l'attention sur la personne même du savant plutôt que sur son œuvre, et donc à tromper le public par une ostentation de richesse ou, à l'inverse, de vertu. comme les charlatans des places publiques qui s'habillent dans de riches vêtements orientaux pour capter l'attention des spectateurs et pour impressionner le public, ces savants jouent un rôle. Ils se mettent en scène. La théâtralité de leur personne publique se déploie au détriment des véritables échanges savants. Alors, je ne m'attarde pas trop sur la deuxième conférence, le deuxième discours, qui traite des disciplines les unes après les autres, aucune n'échappant au danger du charlatanisme. La leçon essentielle est que le savoir est toujours fragile, que les savants sont souvent tentés d'avoir recours à des pratiques qui ne relèvent pas de l'argumentation savante et qui tirent très souvent, même sans être totalement répréhensibles, le savant du côté du pédant, ce personnage devenu la cible de nombreuses satires. D'ailleurs, on peut s'étonner de voir Mencken assimiler le pédant et le charlatan, et c'est d'ailleurs un reproche qui lui a été adressé très tôt, notamment par Christoph August Humann, qui était professeur à Göttingen, et qui lui proposait de distinguer plus clairement le pédant, qui se trompe lui-même, et le charlatan, qui lui trompe les autres. Et cette distinction vous rappelle peut-être quelque chose, puisque nous l'avions rencontré presque sous cette forme exacte dans l'article charlatanerie de Diderot dans l'encyclopédie qu'on avait étudié lors de la deuxième séance. La charlatanerie devient alors un thème très général, peut-être trop général, mais qui ne se contente pas de généraliser la critique du médecin charlatan à l'ensemble des disciplines savantes, mais qui produit une satire généralisée du monde de la science. Alors comment l'expliquer ? À quoi sert cette satire, en particulier, je l'ai dit, dans le contexte d'une conférence universitaire, qui plus est prononcée dans un contexte officiel, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais ces deux discours de Mencken, 713-1715, ont été prononcés lors de la remise des diplômes, et par ailleurs, initialement en latin. Donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une critique extérieure à l'institution universitaire, une satire qui viserait les savants en tant que tels, puisqu'elle est prononcée par un savant pour d'autres savants en latin lors de la remise des diplômes. Mais qu'il ne s'agit pas non plus d'une critique adressée au public pour les mettre en garde contre les faux savants, ceux qui sont extérieurs à la République des lettres ou au monde académique. Il faut alors partir de l'étonnement que j'ai signalé tout à l'heure, le fait que cet ouvrage satirique se présente sous une forme qui est celle d'un texte érudit, d'une sorte d'encyclopédie savante, d'une histoire littéraire, ou du moins d'une histoire des savants et du savoir. Et évidemment, cette forme, pour nous, elle est un peu étrange. Nous ne savons pas vraiment comment lire ce texte, qui est à la fois un mélange de plaisanterie ou de satire, j'en ai lu quelques extraits, mais aussi de références savantes et de commentaires bibliographiques. Est-ce une satire, est-ce un pamphlet contre le pédantisme des savants, ou est-ce un essai érudit sur l'histoire des humanités et la fragilité de tout savoir? Eh bien, c'est un peu les deux, et du coup, on ne sait pas très bien que faire d'un tel objet. Alors, première réponse qu'on peut apporter à cette interrogation, c'est qu'il faut le lire à la lumière d'un genre littéraire issu de la tradition humaniste qu'on peut qualifier d'encyclopédisme satirique. Ses origines se situent au XVIe siècle, notamment avec l'ouvrage d'Henri Corneille Agrippa de Nettesheim, que vous avez ici, intitulé « Declamatio de incertitudine et vanitate scientiarum », discours sur l'incertitude et la vanité des sciences. Comme le fera Mencken, qui cite d'ailleurs Agrippa comme une de ses principales références, eh bien, celui-ci passe en revue toutes les grandes disciplines du savoir pour montrer leur fragilité épistémologique, les contradictions, les aberrations parfois défendues par des savants. C'est un texte qui est assez difficile à interpréter, qui fait écho à l'éloge de la folie d'Érasme, et dont on ne sait pas trop s'il vise à affaiblir les prétentions de la raison et de la science, ou au contraire, à amuser les érudits en mettant en évidence la puissance à la fois savante et comique de l'esprit critique. Entre satire et autodérision, la frontière est parfois ténue. Cette contre-encyclopédie, selon l'expression de Nicolas Coréard, cette contre-encyclopédie a suscité de nombreuses imitations ou réponses au XVIIe et au XVIe et au XVIIe siècle, et encore au XVIIIe siècle, qui posent la question d'un usage satirique de l'érudition, non pas tant contre l'érudition elle-même, mais plutôt contre toute forme de dogmatisme et d'esprit de sérieux. C'est une tradition qui n'est pas du tout morte au XVIIIe siècle, comme le montre le cas de Mencken. Et on en trouve aussi des échos, par exemple, en Angleterre, exactement au même moment, sur un mode encore plus facétieux, lorsque Jonathan Swift, John Arbuthnot et quelques-uns de leurs amis inventent le personnage de Martinus Scriblerus, fondent le Scriblerus Club et publient les mémoires évidemment fictives de Scriblerus où le pédantisme satisfait de ce personnage est épinglé avec humour. Pour citer les mots de Pierre Sange, préfacier écrivain et préfacier d'une récente réédition, Scriblerus est à la fois, je le cite, « l'éternel nigaud, pédant étouffé par un abus de langue morte » et le porte-parole de la dénonciation de la bêtise veule des gens de lettres. Édition récente, vous avez ici, et je le souligne, qui très amusante parce qu'elle renforce encore, ce n'est pas une édition savante, c'est une édition créée par deux écrivains, et même si elle est en fait très savante, mais elle est très amusante parce qu'elle renforce le dispositif de facétie érudite et d'autodérision littéraire, puisqu'on y trouve, outre les préfaces et postfaces de Pierre Sange, plusieurs centaines de notes, 438 précisément, écrites par un second larron, Pierre Lafargue, qui rivalise d'humour absurde avec ses prédécesseurs du Scriblerus Club. Cette tradition, au demeurant, en Angleterre, sera de l'encyclopédisme satirique ou de l'érudition farcesque, sera transformée en matière romanesque par, évidemment, Laurence Sterne dans « Vie et opinion » de Tristram Shandy, son chef-d'œuvre brillant et hilarant, un sommet de la littérature du XVIIIe siècle qui inspira à Diderot un autre chef-d'œuvre, Jacques le Fataliste. En France, dans un registre différent, il faudrait évoquer la philosophie du bon sens ou traité de l'incertitude des connaissances humaines de Jean-Baptiste Boyer d'Argence, publié en 1737. À la différence du livre de Mencken, la philosophie du bon sens ne s'adresse pas aux savants, il s'agit d'une œuvre de vulgarisation encyclopédique, mais aussi d'une défense par le rire contre les prétentions excessives des érudits, donc au fond une façon de venger les honnêtes gens désireux de s'instruire sans subir le mépris hautain de certains savants. En héritant de toute cette tradition humaniste de l'encyclopédisme satirique, en l'utilisant pour railler la charlatanerie des savants, ces auteurs pratiquent ce qu'on pourrait appeler, au fond, une sorte d'hygiène du savoir par l'autodérision. Leur critique du charlatanisme n'a rien de dogmatique. Elle ne proclame pas la supériorité du savoir universitaire sur les faux savants et les imposteurs. Tout au contraire, elle se moque de celles et ceux qui, avec toutes les apparences du savoir, se fourvoient, prennent de grands airs et cherchent à en imposer au public. Toutefois, l'ouvrage de Mencken ne se limite pas à cette ironie salvatrice. Si son livre a eu une telle influence, c'est qu'il participe pleinement d'un second courant éditorial, celui des vices du savoir. Par cette expression, on désigne une multitude de titres publiés en particulier dans les 20 premières années du XVIIIe siècle, tout particulièrement en Allemagne, qui visaient à décrire et à dénoncer des défauts propres à la vie intellectuelle. Plusieurs centaines de dissertations, de thèses universitaires furent publiées en Allemagne à cette époque sur ce sujet, de nombreux textes polémiques aussi, au point que les vices du savoir devinrent un véritable genre littéraire qui a connu ensuite d'ailleurs un rebond dans l'Europe du Nord luthérienne et en Suède notamment au cours du XVIIIe siècle. Il s'agit d'une véritable obsession venue de l'intérieur même du monde universitaire. Et cette obsession, cette profusion de textes, elle a fait l'objet de plusieurs travaux, mais qui sont rarement pris en considération par les spécialistes des Lumières parce qu'ils apparaissent au fond comme relevant d'une histoire de l'érudition. Pourtant, ces écrits ont joué un rôle important dans l'extension du domaine du charlatanisme et dans la réflexion sur les limites du savoir. Car, contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer, il ne s'agissait pas d'un simple jeu intertextuel entre universitaires. Il s'agissait de produire et de naturaliser des normes morales nécessaires à l'exercice de l'activité scientifique, en désignant donc les défauts dont les savants devaient se prémunir. La jalousie, la vanité, le mensonge, l'ostentation. Et donc il s'agissait d'affirmer fortement que le savoir et la morale avaient partie liée, qu'ils étaient même indissociables. Pour l'historienne finlandaise Sari Kivisto, qui en fait, a écrit l'ouvrage le plus complet et récent sur le sujet, eh bien, le succès de ses écrits était lié à une transformation importante du monde universitaire et de la République des lettres au début du XVIIIe siècle. L'érudition pure, issue de l'humanisme, était de plus en plus critiquée au nom de la science expérimentale. Le dogmatisme, la scolastique, la référence-révérence aux autorités classiques, eh bien, étaient battus en brèche par l'essor de l'esprit critique. Cette profonde évolution qui marque, vous le savez bien, le passage de la République des lettres classiques au monde intellectuel des Lumières, elle est bien connue en France. On l'associe, on l'identifie à des figures comme Fontenelle ou Bayle, et on a voulu y voir souvent l'impact plus ou moins souterrain du spinozisme ou des républicains ou des penseurs radicaux venus du déisme et du républicanisme anglais ou hollandais. Ou alors, autre possibilité, on insiste sur l'importance des dynamiques mondaines qui poussaient savants et philosophes à s'adresser prioritairement aux gens du monde ou aux dames de la bonne société. Mais ce bouleversement a aussi frappé le vaste réseau universitaire allemand et européen et il a pris la forme d'une réflexion critique sur l'histoire de l'érudition. Ce qu'on appelait à l'époque l'histoire littéraire et ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être l'histoire des sciences. Et c'est notamment ce qu'a montré Martin Girl dans son grand livre sur le piétisme et le début des Lumières allemandes. À la fin du XVIIe siècle, le luthérianisme allemand a été profondément traversé et transformé par le mouvement piétiste, qui a notamment exercé une grande influence dans les milieux savants. Il a encouragé la pratique de l'histoire littéraire qui permettait de rompre avec les effets dogmatiques de la soumission à la tradition pour aborder de façon critique, on dirait aujourd'hui de façon réflexive, l'histoire de chaque branche du savoir. Il a aussi beaucoup contribué à imposer de nouveaux idéaux de civilité et de politesse dans les relations entre savants, idéaux qui n'étaient pas spécifiques à l'Allemagne, et qui se sont développés dans toute la République des lettres européennes à cette époque, comme l'a bien montré Anne Goldgard dans Impolite Learning, mais des idéaux qui, en Allemagne luthérienne, ont pris une forme spécifique liée justement à ces nouveaux idéaux religieux. Au final, pour Martin Girl, le piétisme, et tout particulièrement la pratique de l'histoire littéraire, ont été une étape décisive du passage d'un monde post-humaniste, marqué par les références scolastiques et le poids de la théologie, vers le nouvel espace savant des Lumières, toujours adossé aux universités. C'est un point toujours à retenir, hein. C'est une des grandes différences, par exemple, entre la France et l'Allemagne dans la vie intellectuelle des Lumières, hein, où l'université en Allemagne joue un rôle absolument considérable, donc toujours adossé aux universités, mais désormais tourné vers l'espace public éclairé. De ce point de vue, on comprend que tout le débat sur les vices du savoir ou les vices littéraires a contribué à laïciser des débats moraux sur les vertus et les vices qui, après avoir été longtemps l'apanage de l'Église et de la théologie, ne disparaissent pas au XVIIIe siècle, mais sont réinventés comme des normes du comportement savant. La critique de la charlatanerie en ce sens ne vise pas tant à dénoncer les adversaires de la science qu'à distinguer parmi les savants ceux qui se conforment à ces nouvelles normes morales et pratiques du savoir et ceux qui s'en éloignent. Dès lors, ces débats sur les vices du savoir et sur la charlatanerie des savants doivent se comprendre comme une étape décisive dans l'élaboration d'une économie morale des sciences modernes. La notion d'économie morale appliquée aux sciences a été élaborée par Lauren Daston dans un article de 1980, très grande historienne des sciences, dans un article de 1995 qui a fait date et que vous pouvez lire en français dans un petit ouvrage avec un excellent commentaire de Stéphane Van Damme. Donc l'économie des sciences modernes, jugement, émotion et valeur à la découverte. Ce que désigne Daston avec cette expression, c'est le fait que les systèmes épistémologiques qui garantissent la vérité scientifique, l'objectivité, la quantification, l'empirisme, sont adossés à des systèmes de valeurs, à des normes collectives et même à des affects que sont le désintérêt, la curiosité, la rigueur, la prudence, etc. Et surtout que ces valeurs varient historiquement. Elles sont des normes, au sens où elles ne sont pas des traits psychologiques individuels, mais plutôt des règles qui s'imposent à une collectivité savante et correspondent à des conceptions localisées de la science. Cette réflexion s'inscrit dans un courant d'histoire des sciences qu'on appelle parfois l'épistémologie historique, qui insiste sur le fait que les principes épistémologiques ont une histoire. Par exemple, la curiosité. Est-ce que c'est bien ou pas d'être curieux pour un savant ? Eh bien, très longtemps, la curiosité a été critiquée, puissamment critiquée par l'Église tout au long du Moyen-Âge. Puis ensuite, au début de l'époque moderne, elle a au contraire été valorisée comme un désir de connaissance, puis à nouveau critiquée au XVIIIe siècle comme une pulsion désordonnée, si bien que aujourd'hui, on peut dire que le statut de la curiosité reste ambigu, parfois présenté comme une vertu et au contraire, parfois comme une incapacité à accéder à des questionnements plus généreux. De cette variabilité historique des normes épistémologiques adossées à des économies morales, Lauren Daston a donné plus tard, avec Peter Galison, une démonstration exemplaire dans leur grand livre sur l'objectivité, qui est traduit en français, que je vous recommande vivement. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, vous l'avez compris, c'est que la critique des vices savants et donc la dénonciation de la charlatanerie s'inscrivent précisément dans ce contexte. En dépit du caractère apparemment anecdotique de toute cette littérature, elle a joué un rôle très important pour imposer l'idée que le statut de vérité des résultats scientifiques, et donc leur autorité, est indissociable d'un ensemble de normes de comportement qui sont à la fois liées à la pratique scientifique elle-même, la rigueur, l'originalité, l'exactitude, et parfois à des attitudes interpersonnelles, la politesse, la modestie, le respect des collègues. C'est pourquoi les savants de l'époque moderne ont tellement cherché à produire des incarnations négatives ou positives de la science. L'historien de la science ou de la philosophie, les frontières à l'époque moderne ne sont pas totalement tracées, l'historien de la philosophie Jan Hunter, par exemple, a insisté sur la notion de persona philosophique, caractérisé par des normes à la fois cognitives et éthiques, des façons d'étudier, des façons de se comporter, des façons de se rapporter à la vérité. La modestie ou au contraire l'ambition ne sont pas des qualités psychologiques individuelles, ne sont pas non plus des défauts universels ou des qualités universelles, mais sont des normes qui organisent des pratiques collectives. Ces personnées sont historiquement situées, elles offrent des ressources pour construire des styles intellectuels qui varient selon les périodes et les collectivités savantes, mais elles sont aussi des modèles auxquels il faut se conformer. Et on comprend que cette personnalisation, au sens propre, création de persona, vise à accréditer la dimension morale des qualités scientifiques. Cela passe par des modèles négatifs, comme le pédant ou le charlatan. Cela passe aussi par des modèles positifs, grâce aux éloges des grands savants et des grands écrivains, genre intensément pratiqué dans les académies, notamment à l'époque moderne. Et vous pourriez peut-être estimer que je n'y ai pas échappé tout à fait il y a un instant dans l'hommage que j'ai rendu à la mémoire de Jacques Revel. Dans cette perspective, celle des économies morales et des personnalités savantes, la critique du charlatanisme au XVIIIe siècle ne visait pas à dénoncer les faux savants extérieurs à la communauté savante, mais à réguler celle-ci, à la normaliser et à la moraliser. Et à bien des égards, ce travail a produit des effets durables en associant profondément vertu épistémique et vertu sociale. Ces effets durables, on les retrouve aujourd'hui dans toutes les discussions sur ce qu'on appelle l'intégrité scientifique. Or, celle-ci, ce qu'on oublie parfois, c'est que celle-ci, elle a une histoire. Les normes du licite et de l'illicite dans les sciences, eh bien, elles ne sont pas hors du temps. Elles varient en fonction des conditions sociales, matérielles et même économiques de la recherche. Prenons un exemple très simple. L'autocitation. Est-ce que c'est une façon légitime de se référer à ses propres travaux ou une façon illicite de faire monter son index de citation, le fameux H-index, tellement important aujourd'hui dans les évaluations? Et citer ses amis, bonne ou mauvaise pratique? Où se situe la limite? Où passe-t-on de l'immodestie et de la camaraderie au charlatanisme? Certains historiens des sciences vont même jusqu'à considérer que la fraude scientifique est absolument nécessaire au bon fonctionnement de la science, parce qu'elle permet aux communautés scientifiques de réaffirmer leurs principes probatoires, c'est-à-dire le fonctionnement de la preuve, de négocier en permanence les limites des bonnes et des mauvaises pratiques, et donc de s'auto-réguler. Voyez, par exemple, le numéro de 2020 de History of Science, dont vous avez ici la référence. À l'inverse, vu de l'extérieur, cette normalisation des économies morales de la science a eu aussi pour effet d'ancrer la satire des mœurs savantes et peut-être d'accréditer durablement dans l'opinion publique une représentation des savants comme des personnages particulièrement ridicules, voire vicieux. Le livre de Mencken, par exemple, a eu une postérité non négligeable et inattendue, non seulement au XVIIIe siècle, mais plus tard, et j'en citerai un seul exemple. En 1937, un autre Mencken, Henry Louis Mencken, donc le journaliste et essayiste américain, a proposé une édition anglaise. Vous l'avez ici. Alors, vous allez me dire, coïncidence onomastique ? Pas du tout. En fait, Henry Louis Mencken était le descendant du savant allemand. Je vous ai dit, on ne sort pas des histoires de famille aujourd'hui. Alors, pas directement, en fait, il était un descendant d'un de ses cousins, mais c'était la même famille. Et Henry Louis Mencken, qui, vous le savez peut-être, était un essayiste et journaliste conservateur, élitiste, profondément antidémocratique, volontiers sarcastique, eh bien, il s'était réjoui, dit-il, de découvrir, sous la plume d'un ancêtre portant son nom, une satire des mœurs universitaires qui renvoyait avec autant d'à-propos à ses propres critiques à l'égard des intellectuels de son temps. Alors, décidément, vous devez avoir l'impression que je digresse beaucoup cette année. au lieu d'avancer droit devant moi, sans traînailler depuis les charlatans des Lumières jusqu'aux charlatans contemporains, comme je l'avais annoncé, eh bien, j'ai fait d'abord un détour par la Grèce antique. Je me suis entiché de Tabarin et de ses farces. Je me suis lancé dans l'étude improbable des privilèges royaux et des archives de la Société royale de médecine. J'ai commenté un obscur roman oublié des années 1780 et voilà que je suis reparti en arrière pour parler de l'encyclopédisme satirique et des vices du savoir dans les universités allemandes du début du XVIIIe siècle. Alors, je vous prie de m'excuser pour ce voyage un peu erratique. Il faut croire que j'ai adopté comme méthode la poétique de l'histoire proposée avec ironie par Laurent Stern dans un passage du Tristram Shandy que Jacques Revel aimait beaucoup citer. Car oui, tout se tient, comme dirait Patrick Boucheron, c'en est presque effrayant. Voici le passage par lequel je vais terminer, dans lequel le narrateur se justifie de n'en être pas encore parvenu. Il est au milieu du roman et il s'aperçoit qu'il n'en est pas encore parvenu à la naissance de son héros. Vous voyez, pire que moi. Et donc il se justifie et il écrit ceci. Si un historiographe pouvait s'en aller sur son histoire comme un muletier sur sa mule, droit devant lui de Rome à Lorette, sans un seul regard à droite ou à gauche, il pourrait se risquer à vous prédire à une heure près la fin de son voyage. Mais la chose est, moralement parlant, impossible, car pour peu que l'auteur ait d'esprit, il lui faudra 50 fois dévier de sa route en telle ou telle compagnie, et sans qu'il pense s'y soustraire, des points de vue se présenteront et le solliciteront sans cesse. Impossible de ne pas s'arrêter pour les contempler. Il aura en outre divers récits à concilier, anecdotes à recueillir, inscriptions à déchiffrer, histoires à glisser dans la trame, traditions à passer au crible, personnages à visiter, panégyriques à afficher sur cette porte, pasquinades sur cette autre. Ceux dont l'homme et la mule sont tous deux exempts. Pour comble, il lui faudra à chaque étape consulter des archives, feuilleter rôles, actes, documents et généalogies interminables dont ses scrupules ne cesseront de ralentir la lecture. Bref, on n'en a jamais fini. On n'en a jamais fini et donc on continue la semaine prochaine. Bon après-midi.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. Collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.